On se retrouve donc pour parler de cette guerre de 1870. On est le 18 août 1870 et les combats se situent dans l'est du côté de Gravelotte, Jérôme, c'est ça ?
Exactement. Et donc on va bientôt arriver dans le Loiret. Vous devez vous demander comment on va arriver dans le Loiret. Ne vous inquiétez pas, nous y arrivons. Tout est logique, militairement parlant. Du coup, le 18 août, l'armée française est encore battue dans la fameuse bataille de Gravelotte-Saint-Privat. Donc je ferai juste une petite aparté. Peut-être vous connaissez cette expression « ça tombe comme à Gravelotte » qui est rentrée dans le langage courant pour les plus anciens d'entre nous. Ben, ça vient de là, en fait. La garde prussienne a attaqué le village de Sainte-Marie-aux-Chênes à côté de Gravelotte et a été anéantie quasiment par les chasse-pauvres, des chasseurs à pied français et des fantassins français réfugiés dans le cimetière de Sainte-Marie-aux-Chênes.
On est où, excusez-moi, géographiquement parlant?
On est à l'est, à une vingtaine de kilomètres, à l'ouest, de Metz. On est d'accord. Sur la route entre Metz et Verdun, en fait. Et en fait, le but des Allemands était de bloquer la route de Metz aux Français. Mmh. Et ils ont réussi, puisque à l'issue de cette bataille de Gravelotte-Saint-Privat, où donc les chasse-pots français ont fait des merveilles, dans le mauvais côté du terme, pour détruire quasiment la garde prussienne qui est montée à l'assaut. Et depuis ce temps-là, on dit ça tombe comme à Gravelotte.
Donc là, il y a eu énormément de victimes des deux côtés.
Beaucoup. C'est certainement la bataille de la guerre où il y a eu plus de pertes. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça a été terrible. La garde prussienne a perdu 80% de ses effectifs. Okay. L'empereur, le roi, parce qu'il était encore que roi, Guillaume, qui était là, a vu sa garde tomber, mais il était épouvanté de voir dans les champs de blé les grenadiers prussiens tomber comme des champs de quilles. C'était terrible. Mais le plus important, c'est qu'à l'issue de cette bataille, le maréchal Bazaine, ça lui sera beaucoup reproché, et ça fera l'objet d'un procès après cette guerre, va s'enfermer dans Metz pour ne plus en sortir. Et on va lui reprocher de ne pas avoir tenté de rejoindre l'autre partie de l'armée. Mais du coup, ça va être très important pour le Loiret, cette histoire. Vous verrez pourquoi plus tard. Mais il va s'enfermer dans Metz et va commencer le siège de Metz. Donc le prince Frédéric Charles de Prusse, qui commande la deuxième armée prussienne, c'est important parce que c'est lui qui va se retrouver dans le Loiret, va entamer le siège de Metz, qui va durer un certain temps. Pendant ce temps-là, l'autre partie de l'armée française, sous le commandement de Mac Mahon, a eu quelques renforts venant de Paris et a pris le chemin de la frontière belge pour contourner les Allemands et éventuellement libérer Metz, libérer Bazaine du siège de Metz. Et à l'issue de tout un tas de marches et de contre-marches dont je ne rentre pas dans le détail, vont se retrouver encerclés par l'armée allemande, l'autre partie de l'armée allemande, à Sedan. Et c'est la fameuse bataille de Sedan où les troupes françaises sont encerclées. Et là, en deux jours, le 1er et le 2 septembre, enfin le 31 août et le 1er septembre 1870, l'armée française est encerclée et doit capituler en rase campagne cette fois, avec des fameux épisodes comme les troupes de marine à Bazaine, qu'on commémore tous les ans, etc., etc. Et l'empereur ne sortira pas de cet encerclement et va devoir se constituer prisonnier. Et c'est à cette issue à l'issue de la défaite de Sedan et du fait que l'empereur s'est constitué prisonnier, c'était l'impératrice Eugénie, sa femme, qui avait pris la régence, mais les opposants politiques à l'Empire ne vont pas se laisser faire, et c'est pourquoi le 4 septembre, deux jours après, c'est cette fameuse journée du 4 septembre 1870, l'Empire est aboli et un gouvernement provisoire est créé sous la direction de Jules Ferry, Adolphe Thiers et Léon Gambetta,
là,
entre autres.
La proclamation de la République.
De la République, qu'on a commémoré il y a quelques temps, c'était le 150e, la place de la République à Paris commémore ce 4 septembre 1870. Okay. Et donc, à partir de ce moment-là, on va entrer dans la phase républicaine.
D'accord.
Puisqu'il y avait deux choix qui s'opposaient aux politiciens. Capituler ou continuer le combat. Tout le monde n'était pas d'accord et le parti, on va dire, de continuer le combat a emporté, et on a décidé de continuer le combat et de rassembler toutes les forces possibles et imaginables. Et il n'y avait plus grand-chose, puisque l'armée française était totalement détruite. Totalement.
Et là, la seule chose, ça va être de pouvoir se défendre, et c'est pour ça qu'on parle de gouvernement de défense nationale.
Et absolument, absolument. Et donc là, on approche de notre but. Les Prussiens, eux, se sont dit, pour abattre la France, il faut prendre Paris. Paris, c'est le centre de la France. Si on prend Paris, c'est terminé. Ils n'avaient pas forcément tort. Et donc, leur but, c'est laisser une armée continuer le siège de Metz, mmh. et tout le reste, celle qui avait gagné à Sedan, marche rapidement vers Paris.
Donc c'est là qu'on s'approche du Loiret.
Exactement.
D'accord.
Et donc, début septembre 1870, les armées allemandes, deux armées, prennent le chemin de Paris rapidement et ils vont arriver sous Paris autour du 12 septembre 1870. En face, il n'y a pas grand-chose. Ce ne sont que des troupes, on va dire, qui ne sont plus des troupes professionnelles. L'ensemble des armées françaises est soit détruite à Sedan, soit enfermée dans Metz. On a rameuté tout ce qu'on trouvait, c'est-à-dire des troupes qui étaient en Algérie, quelques régiments. On a rameuté quelques régiments de cavalerie qui étaient épars à droite à gauche et qui n'avaient pas été pris dans les capitulations susnommées. Et puis on a rassemblé des gardes nationaux, des gardes nationaux sédentaires, c'est-à-dire ceux qui étaient formés de troupes d'hommes assez âgés et qui devaient rester dans les localités.
Et puis là, en garnison.
Dans les garnisons et puis surtout garder les points chauds, etc. Donc ces gardes sédentaires, ces gardes nationaux vont avoir beaucoup d'importance lors de la Commune de Paris plus tard. Et puis l'autre partie, c'est la garde nationale mobile, qui va être mobilisée donc en juillet, fin juillet 1870, et qui va être mobilisée, armée et équipée. Alors un petit focus sur cette garde nationale mobile qui va avoir beaucoup d'intérêt dans notre récit. Cette garde nationale mobile était constituée des hommes qui n'avaient pas fait de service militaire, mais qui étaient susceptibles de partir sous les drapeaux.
Ceux qui avaient tiré un bon numéro.
Voilà, c'est exactement ça, et qui n'avaient pas été pris. Donc ils étaient censés être répertoriés par département. Donc cette fois, on parlait de la gestion se faisait par département, et on les couchait sur des listes avec des officiers, qui étaient souvent des anciens officiers retraités ou démissionnaires, et ils devaient faire des périodes d'instruction pour être mobilisés en cas de conflit et former une deuxième ligne de réserve, voire de voilà.
Et donc on lève une nouvelle armée, en fait.
Alors, c'est
là qu'on va parler de l'armée de la Loire.
Cette garde nationale mobile avait été créée en 1868 par le maréchal Niel, qui à l'époque était ministre de la guerre, mais qui est décédé très tôt et qui n'a pas pu finir son œuvre. Et en fait, cette garde nationale mobile est restée en fait une théorie. Il y avait des listes, il y avait des soldats, il y avait des... Mais personne ne l'a jamais mobilisée. Et je rappelle que la mobilisation était sous le ressort du département. Et donc, en août 1910, on a ressorti des cartons, cette garde nationale mobile, et on l'a créée par département. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, dans le Loiret, la garde nationale mobile a été appelée. On a ressorti les listes, on a appelé les soldats, ils sont venus. On a rassemblé, c'est à peu près 5000 gardes nationaux mobiles dans l'unique caserne d'Orléans, qui était l'ancienne caserne du Portail, qui s'appelait la caserne de l'Étape, près de la cathédrale. Et on a créé 5 bataillons de la garde nationale mobile du Loiret, 5 bataillons avec des officiers élus, tirés au sort, souvent des anciens soldats, etc. Et c'était les seules et uniques troupes qui étaient disponibles pour garder le Loiret à cette époque-là. Mais les Allemands étaient encore loin. Pendant ce temps-là, donc le 12 septembre, les armées allemandes arrivent sous Paris. Il y a un premier combat à Châtillon et à Chevilly-la-Rue au début septembre 1870. Et puis, on est battu encore une fois et les armées allemandes vont encercler Paris.
Donc en fait, les Prussiens viennent de l'est de la France et ils arrivent sur Paris par le sud.
Par le sud et une partie par le sud-est et une partie par le nord-est. D'accord. Ils vont encercler une tenaille en fait et ils vont se retrouver de l'autre côté à Versailles. Ah oui. Et c'est là que va s'installer dans le château le grand état-major allemand, prussien, pour tout le reste de la guerre. C'est pour ça qu'on parle de l'état-major de Versailles, on parle souvent de Versailles.
On parlera tout à l'heure de l'armistice qui a été signé au Palais des Glaces.
Et les ordres arrivent de Versailles. Donc là, nous sommes à la fin septembre 1870, Paris est encerclé. Toutes les troupes encore disponibles qu'on a formées de briques et de brocs sont à l'intérieur de Paris. Ce qui nous donne l'occasion de parler 2 minutes de nos gardes mobiles du Loiret, puisque toutes les gardes mobiles des alentours de Paris, voire même d'un peu plus loin, comme en Bretagne ou en Vendée, tous ceux qui étaient organisés ont eu l'ordre de monter à Paris. Donc 4 bataillons de la garde mobile du Loiret sur 5, donc 90% des effectifs, montent à Paris. Et ils vont créer un régiment, qui sera le 37e régiment de la garde nationale mobile, entre parenthèses Loiret, qui va combattre héroïquement à Paris, notamment lors de 2 batailles, mais qui sont plus anciennes, c'est-à-dire la bataille de Buzenval et la bataille de Champigny. Et donc, notamment, ils vont perdre leur colonel. Bon, On en parlera peut-être après, mais ce n'est pas le sujet. Mais les Loiretains, en fait, ont combattu glorieusement à Paris. Il restait un bataillon pour défendre Orléans, donc les ponts de la Loire, etc. C'est tout. Mais pour l'instant, les Prussiens sont loin. Hein.
Ouais. C'est important hein, de signaler ce côté oui. Départemental. C'est-à-dire
oui,
que les Loiretains, les hommes du Loiret en âge d'être mobilisés, ont contribué finalement au combat beaucoup plus que d'autres départements en France.
Alors non, pas forcément. Non, non, on peut. Alors on est tous plus ou moins un petit peu chauvins.
Oui.
Mais tout, par exemple, j'ai parlé que du Loiret, mais lorsque le gouvernement provisoire a appelé la garde nationale mobile à Paris, ils ont appelé 100 000 gardes nationaux. Donc des bataillons du Loiret, de Vendée, de Loire-Atlantique, beaucoup de Bretons, parce qu'ils ne parlaient pas français, donc ça évitait de se mêler. Non, mais c'est vrai,
d'accord.
Parce que ça évitait de se mêler à la population et ça aura beaucoup d'importance lors de la commune, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que disaient les communards, parce qu'ils parlaient tous breton.
Mais il y a quand même certains départements qui ont été moins sollicités que d'autres.
Hein. Bah, c'est surtout par rapport à la population. La Savoie, par exemple, n'a créé que 2 bataillons. Et d'autres, par contre, la Seine a créé une trentaine de bataillons. Mais donc, tous ont été plus ou moins sollicités. Après, certains n'étaient pas organisés, donc ils n'ont pas eu le temps d'envoyer leur bataillon à Paris avant la fin de l'encerclement. Mais ils vont combattre, par exemple, sur la Loire, par exemple. Donc, parce qu'après, ils vont envoyer leurs troupes. Et donc, à la fin septembre 1870, l'encerclement de Paris est complet. Toutes les troupes qui restaient encore à la France sont dans Paris, plus les gardes nationaux. Derrière, il n'y a rien. Et donc, c'est là où le Loiret va avoir son importance, c'est que les Allemands ont besoin de savoir tout ce qui se passe dans leur dos. Et surtout, ont besoin de savoir s'il n'y a pas des troupes françaises qui se lèvent dans les périmètres, à la périphérie de Paris. Et aussi, une autre raison, ils ont besoin de ravitaillement. Donc, les divisions de cavalerie allemande, enfin prussienne, qui n'ont plus aucun intérêt dans la guerre de siège de Paris, vont être envoyées dans tous les coins, donc au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de Paris, pour aller voir ce qui se passe et obtenir du ravitaillement.
Okay.
Et c'est là que, le 20 septembre 1870, la 4e division de cavalerie, qui est commandée par le prince Albert de Prusse, qui est un neveu du roi, ou son oncle, je crois, parce qu'il était un peu plus âgé, va prendre la direction du sud. Sa mission, elle est simple, reconnaître les bords de la Loire, voir ce qui s'y passe. Est-ce qu'il y a des troupes françaises ? On ne sait pas. Parce que la Loire, elle fait peur. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a rien. Et il y a cette forêt. Et cette forêt, bah derrière, on ne sait pas ce qui s'y passe. Et donc, peut-être qu'il y a des troupes à Orléans. Donc, l'idée, c'est de prendre les ponts.
Donc là, on comprend bien hein, ce qui se passe à ce moment-là. C'est que entre Orléans et Paris, c'est un terrain de combat important. Côté français, il va falloir qu'on défende notre...
Oui, alors, absolument. Hein, mais pour l'instant, la défense de la Loire, elle est un peu illusoire parce qu'il n'y a pas de troupes. L'idée, c'est que les Allemands, eux, ils vont envoyer des divisions en Normandie, une division vers la Normandie, une division de cavalerie vers le Loire, Chartres, et une autre vers Orléans, avec le but de prendre les ponts d'Orléans, de capturer la ville, on se dit, il n'y a peut-être pas de soldats, de prendre les ponts et de fermer le sud de la France, parce que les ponts d'Orléans, c'est le sud de la France, c'est l'ouverture vers le sud. Et effectivement, c'est ce qui va se passer, puisque... quelques temps après, un célèbre dirigeant du gouvernement va quitter Paris en ballon. C'est Léon Gambetta.
Voilà.
Et Léon Gambetta, avec quelques-uns de ses camarades, va se retrouver à Tours pour former ce qu'on a appelé une délégation du gouvernement provisoire qui va s'installer à Tours. Et c'est de Tours que Léon Gambetta, avec toute la verve qui le caractérise, alors on peut, politiquement parlant, on peut discuter de Léon Gambetta, mais ça a été un formidable organisateur, même s'il a un petit côté dictatorial, etc. Mais du coup, il a organisé. Et à partir de ce moment-là, Léon Gambetta et ses acolytes, donc l'amiral Forichon, par exemple, vont n'avoir de cesse que de recréer des armées pour libérer le siège de Paris. Et à partir de ce moment-là, on est en fin septembre 1870, la principale idée, c'est de regrouper toutes les forces de la France au sud de la Loire, autour de Tours, de Bourges, de Vierzon, de créer de nouvelles unités et de marcher vers Paris pour en libérer le siège.
Ils vont avoir... là, il va falloir traverser la Loire depuis le sud d'Orléans
pour
aller vers Paris.
Voilà, ça va être simple, mais bon... On anticipe un petit peu. Une autre armée de l'autre côté, dans la même idée, va être créée dans le nord de la France, sous les ordres du général Federbe, ancien gouverneur du Sénégal, qui va lui créer 2 corps d'armée dans le nord de la France. Et toutes ces troupes, de même que quelques troupes en Normandie et en Bretagne, l'armée de Bretagne, vont essayer de faire communiquer leur force pour libérer le siège de Paris. Mais faut reconnaître que l'armée du Nord va rester cantonnée dans le nord de la France et les plus gros des combats auront lieu sur la Loire.
D'accord. On a fait le tour un petit peu, enfin on a fait la chronologie de cette guerre de 1870 au point de vue national. Donc on a commencé par les combats qui se sont déroulés dans l'est de la France, et puis on est descendu vers Paris et puis vers la Loire. Donc cette semaine on a parlé de tous ces événements. On parlera dans une deuxième émission de ce qui s'est passé dans le Loiret précisément. Merci Jérôme. On peut aussi parler des différents sites qu'on peut visiter dans le Loiret.
Absolument.
Et notamment le musée de Loigny-la-Bataille qui a été rénové récemment et qui mérite vraiment une visite.
Qui est en Eure-et-Loir, c'est ça?
En Eure-et-Loir, oui. Oui, juste.
C'est le même théâtre d'opération.
À la limite entre le Loiret et l'Eure-et-Loir. Je voudrais juste, pendant quelques instants, signaler quelques ouvrages qui sont sortis à l'occasion des 150 ans de la guerre de 1870. Notamment un livre qui s'appelle, j'ai pas le titre exact sous les yeux aussi, ça s'appelle « Il y a 150 ans, 1870, près d'Orléans ». Il a été écrit par Jean-Marie Bois et Jean-Pierre Bourdiot, deux spécialistes également de cette guerre de 1870, et c'est un ouvrage qu'on peut trouver en mairie d'Ormes, en mairie de Chevilly et en mairie d'Artenay. Donc il a été publié un petit nombre d'exemplaires et vous pouvez encore le trouver dans ces trois mairies. Merci Jérôme, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler de cette guerre de 1870.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.